France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, bonne idée ? Et ICE, la police de l'immigration, qui effraie le monde. Nous serons avec la magistrate Magali Lafourcade, le philosophe Gaspard Koenig, l'éditeur Arthur Chevalier et la directrice des études France à l'Institut Montaigne, Blanche Le Ridon. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Julien Moulet.
On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et on va interdire les portables dans nos lycées. Je crois que c'est une règle claire, claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants. Et on avance. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois.
Le président de la République, Emmanuel Macron, dans une vidéo obtenue par BFM TV le 24 janvier, il s'adresse à la députée Ensemble pour la République, Laure Miller, rapporteure de la commission d'enquête sur les effets de TikTok. Emmanuel Macron qui soutient sa proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et les téléphones portables au lycée. Soutenu aussi par le gouvernement qui a engagé la procédure accélérée, c'est-à-dire une seule lecture par chambre. Le texte adopté à l'Assemblée le 27 janvier est attendu mi-février au Sénat et pourrait, si il est adopté, entrée en application dès la rentrée. L'objectif est d'éviter la déconvenue de 2023 avec la loi Marcangeli qui crée une majorité numérique à 15 ans sans l'accord de l'Union européenne. C'est pourtant elle qui est souveraine pour contraindre des plateformes comme le prévoit le DSA, le Digital Services Act. Aujourd'hui, la Commission a donné son feu vert. La France a le droit d'interdire l'usage des réseaux sociaux à ces jeunes de moins de 15 ans. C'est l'Europe qui se chargera d'imposer des vérifications aux plateformes si elle le souhaite. Seule l'Australie a réussi à ce jour à faire adopter un tel texte pour les moins de 16 ans et de nombreuses questions. Qui vérifie et comment ? Sommes-nous en train de nous priver de talents créatifs potentiels ou de sauver la santé mentale, l'attention et l'estime de soi des enfants ? Faut-il prévoir un sevrage alors que près de 60% des 11-12 ans sont présents sur au moins un réseau social ? Dans le monde, nous sommes 5 milliards à utiliser les réseaux sociaux. En France, 25 millions de personnes sont sur TikTok. Le débat s'élargit en ce moment aux conséquences des jeux vidéo dans un contexte où un adolescent de 14 ans a, cette semaine, poignardé en pleine classe et à 4 reprises, une enseignante de 60 ans à Sanary-sur-Mer dans le Var. L'interdiction est-elle une bonne idée ou au contraire un écran de fumée? On en parle ce matin avec Magali Lafourcade. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés. La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit. C'est votre dernier ouvrage paru aux éditions Les Petits Matins. Et je cite le prix que vous avez reçu cette semaine pour démasculiniser la justice. Votre avant-dernier livre. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Merci d'être là. Philosophe, écrivain, vous venez de faire paraître À quoi le 9 janvier dernier aux éditions de l'Observatoire. Vous aviez déjà publié Humus aux éditions de l'Observatoire en 2023. J'accueille Blanche Le Ridon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, directrice des études à l'Institut Montaigne. Vous êtes également enseignante à Sciences Po. Et enfin Arthur Chevalier, auteur, éditeur, chroniqueur. Votre dernier livre, L'histoire à l'épreuve des émotions au CERF. Merci à vous.
Merci.
Et la première question est pour vous, Arthur Chevalier. Que pensez-vous de cette interdiction, si elle a lieu, bien sûr? Est-ce que c'est une forme de facilité quand on ne sait pas régler les autres sujets?
Alors évidemment, spontanément, c'est une bonne nouvelle, parce que les réseaux sociaux, il faut le rappeler, ne servent strictement à rien, à part enrichir ceux qui les ont créés. C'est la seule vraie création qui se produit avec les réseaux sociaux, c'est ça. Bon. La deuxième, et là mon point de vue sera peut-être plus nuancé, c'est que je vais le dire avec une formule un peu provocatrice, mais c'est pas parce que Cyril Hanouna existe que les gens ne lisent pas Shakespeare. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens ne lisent pas Shakespeare et ne font pas des choses qu'on juge assez sophistiquées intellectuellement, c'est pas parce qu'on les détourne des choses compliquées et intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire ? La communauté des lecteurs, depuis par exemple l'industrialisation du livre au 19e siècle, on va dire ça comme ça, avec un vrai marché d'édition, elle a toujours été infime. C'est une illusion de croire que aujourd'hui on ne lit plus, les gens sont devenus débiles. C'est faux. peut-être un peu, mais je veux dire, c'est pas du tout significatif, quoi. Donc
c'est une. C'est pas ce que disent les chiffres du CNL.
Oui, oui.
On va vous donner la parole dans un instant, Gaspard Koenig. Finissez,
Charles. Le CNL n'existait pas au 19e siècle, mais oui.
Quant à.
Le Conseil national du livre.
Voilà, absolument. Quant aux réseaux sociaux, bon, évidemment, ils ne servent à rien. Ces jeunes, a priori, ne gagnent rien à passer du temps dessus. Sur la violence qu'ils créent, bon, il y a sûrement des rapports très savants qui doivent le démontrer, et c'est très bien qu'ils existent. Maintenant, moi, je constate aussi que ne pas avoir de réseaux sociaux, de façon générale dans la vie aujourd'hui, c'est devenu en fait un vrai luxe. C'est-à-dire que ça suppose d'avoir une vie personnelle épanouie, de voir ses amis, de ne pas être frustré professionnellement, de ne pas chercher un travail, puisque tout ce que je viens d'énumérer est comblé par les réseaux sociaux, qui sont en fait une machine à mise en scène de frustration, en fait, on va dire ça comme ça. Donc il faut aussi prendre conscience que les réseaux sociaux, c'est aussi devenu un outil de survie dans une société qui crée de la solitude. Voilà. Et les jeunes n'échappent pas à ça.
Gaspard Koenig.
Moi, j'irais juste un tout petit peu plus loin que le législateur. Je dirais qu'il faudrait les interdire au moins de 75 ans. Je pense que 75 ans, c'est un bon âge, un âge de maturité, de sagesse, où on peut tranquillement passer le reste de son temps à scroller. Mais que c'est aujourd'hui un sujet, en fait, qui dépasse largement la question des enfants, parce qu'il y a une forme de facilité de dire « Ah, nos enfants font n'importe quoi avec les réseaux sociaux, mais nous faisons tous n'importe quoi ». Le temps passé sur ces machines est inouï, parce que ce sont des machines qui sont simplement conçues par des gens qui s'y connaissent, par des neuroscientifiques, pour provoquer de l'addiction. C'est maintenant bien, d'ailleurs, établi. Moi, il y a déjà 7-8 ans, j'étais assez actif sur ce genre de plateforme, et j'avais rencontré Jaron Lanier, qui est, je pense, le meilleur penseur de la technologie, et qui venait de sortir un livre qui s'appelait « 10 arguments pour éliminer ou pour quitter les réseaux sociaux ». Et il m'avait tout simplement convaincu. J'avais quitté les réseaux et j'ai gagné une liberté personnelle et une capacité à penser contre moi-même après une petite période de sevrage effectivement difficile parce que c'est une vraie drogue que je suis persuadé que je n'aurais pas eu l'évolution intellectuelle que j'ai eue depuis si j'étais resté dessus. Donc je pense que c'est vraiment une question presque de dignité collective, de salubrité, que soit bien sûr de les interdire pour les jeunes, parce qu'on interdit l'héroïne pour les jeunes et ça pose franchement pas tellement de questions. Et pour les adultes, c'est toujours difficile d'interdire, mais de s'imposer une discipline, un stoïcisme et une mise à distance de ces machines à polluer, à vraiment à détruire le cerveau. Et s'agissant de la lecture, les chiffres du CNL, donc du Conseil national du Conseil, comité, commission.
Conseil national.
Centre, voilà. qui a fait une étude assez complète sur le sujet il y a un an, montre bien que depuis 40 ans, et surtout depuis les 10 dernières années, en fait, et donc depuis l'apparition des réseaux sociaux, la lecture chez les plus jeunes chute considérablement. Et ça, je veux dire, c'est en comparant génération après génération, cohorte après cohorte.
Gaspard, le CNL mesure les livres.
Oui, alors, mais c'est ça que, dont je parle, parce que Michel Démurger...
Mais il y a des tonnes de gens qui lisent sur leur téléphone. Oui, ça, c'est une illusion de croire qu'on lit pas sur les téléphones.
Alors, ça, il faut lire Michel Démurger, qui explique bien, notamment dans sa dernière conférence qui vient d'être publiée par l'Institut Diderot, qui est disponible en ligne gratuitement sur la lecture en 2050. Il explique pourquoi lire des livres et pas des tweets ou des petits articles ou des petits bouts de trucs développe les capacités cérébrales de manière absolue, sans comparaison. Et que on ne peut pas aligner toutes les formes de lecture sur le même plan. Et ce que disait l'étude du CNL, qui était encore plus troublant, je trouve, c'est que 60 ou 70% des jeunes, quand ils lisaient, n'arrivaient pas à se concentrer entièrement sur le livre, et devaient quand même avoir le portable à côté pour de temps en temps y jeter un œil.
Les enseignants l'observent aussi, ça.
Et aujourd'hui,
concentration.
Mais aux États-Unis, ça va plus loin, puisque les profs de cinéma expliquent qu'ils n'arrivent plus à faire regarder un film d'une heure et demie, donc on parle d'un film qui requiert normalement un peu moins de capacité d'autodiscipline que de lire la recherche du temps perdu, pendant tout le temps du film, et que les élèves trichent, vont aux toilettes, etc., pour pouvoir allumer le portable, pouvoir regarder le réseau, pouvoir savoir s'ils ont reçu une notification. Et je pense qu'effectivement, le risque de débilitation que Arthur semblait mettre un peu de côté comme une sorte d'antienne, finkielkrautienne, un peu ringarde.
Je rappelle que je suis éditeur de livres, quand même.
Oui,
c'est mon métier. Enfin, moi, je défends la lecture.
Je pense que ce risque est réel et qu'on a passé presque dans nos sociétés le plateau de l'alphabétisation, que d'ailleurs les chiffres d'analphabétisme augmentent aux États-Unis, on est quand même à 21%. En Europe, on est entre 10 et 20, mais ce sont des chiffres qui augmentent et qui sont liés à cette captation des cerveaux par des entreprises privées qui, comme Jaron Lanier le montre très très bien, sont fondés pour faire du profit sur notre attention et qu'il est vraiment temps de prendre des mesures collectives comme Ulysse qui s'attache à son mât pour s'en affranchir et pour se sevrer.
Blanche Loridon.
Oui, mais est-ce qu'une législation, et d'autant plus une législation un peu hâtive, est vraiment la bonne solution et la solution pertinente? Moi, ça me pose énormément de questions de trois ordres en réalité. Une question d'ordre philosophique, une question d'ordre de faisabilité technique, et puis une question purement juridique, mais je pense que Magali Lafourcade sera bien plus instruite que moi sur cette dimension-là. Question philosophique d'abord, parce que j'ai le sentiment qu'avec cette loi, il y a une espèce de solutionnisme légal où on se dirait, ben, face à un problème éminemment complexe et vos deux interventions ont bien montré à quel point il l'était, eh ben on va coller une loi et finalement on va s'absoudre un petit peu de toute responsabilité, on va considérer que le travail est fait et on va se dédouaner de tout le reste. On va dire, ben de toute façon c'est interdit, donc nos jeunes sont désormais protégés. Et donc pour moi, la question de la législation, elle est indissociable de tout un ensemble d'autres mesures qui concernent pas uniquement d'ailleurs l'interdiction, mais aussi bien évidemment la pédagogie, l'éducation et tout un certain nombre d'autres ressorts qui sont absolument impératifs à traiter. Philosophique aussi parce qu'on semble dire, en interdisant uniquement aux moins de 15 ans, comme vous l'avez dit, que pour tous les autres, finalement, tout ça ne serait pas dangereux et qu'on pourrait évoluer de façon totalement décontractée. Et même, je ne suis pas d'accord avec vous sur les moins de 75 ans. Je lisais, en préparant l'émission, une interview hyper intéressante du psychiatre Serge Tisseron qui disait précisément qu'il y avait une vulnérabilité immense chez les seniors.
Et on peut remonter le seuil à 85.
Voilà, 85, peut-être on serait d'accord. Mais qu'il y avait aussi...
Pas 80, non.
Et qu'on passait à côté aussi peut-être de toute une population extraordinairement vulnérable chez les seniors qui, notamment parce qu'elle n'a pas été sociabilisée, éduquée avec ces outils-là, est beaucoup plus susceptible de croire à des fake news ou à des images générées par intelligence artificielle. Philosophique aussi parce que moi j'observe quand même une espèce de schizophrénie politique où vous avez un président de la République qui, au moment où la proposition de loi a été adoptée à l'Assemblée nationale, était quand même en instance, pardon pour cette expression, d'auto-mémisation, c'est-à-dire qu'il était en train de se transformer en mème sur les réseaux sociaux et lui-même se servait de son image en tant que mème sur les réseaux pour répondre des adversaires diplomatiques.
Vous voulez dire parce qu'il avait ses lunettes de soleil en raison de son problème à l'œil?
Non,
parce qu'un mème, pour préciser peut-être pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est pas évident, c'est une forme d'image récurrente sur Internet à vocation humoristique
Exactement, mais il aurait pu ne pas avoir ses lunettes de soleil, ça aurait été la même chose. Je veux dire qu'il a utilisé sa propre image et la propre viralité de son image comme outil diplomatique, et d'ailleurs c'est un outil qui est relayé par le Quai d'Orsay lui-même via ce qu'ils appellent French Response. Donc on voit bien...
C'est un compte justement sur les réseaux sociaux pour relayer la parole
Exactement.
Française, mais de manière un peu plus libre que celle
Exactement.
Du Quai d'Orsay.
Donc,
on en parlera, je pense, d'ailleurs, dans cette
émission. Et même une partie des députés qui a voté pour sait qu'aujourd'hui, ils vont aller chercher sur ces réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, pour un certain nombre d'entre eux, cette jeunesse. Donc, il y a un moment donné où là, on est un petit peu dans le fait ce que je dis, parce que je fais, qui est un peu compliqué. Pardon, faisabilité technique ensuite, au-delà du problème philosophique, c'est qu'à ce stade, on ne sait pas encore exactement comment est-ce que cette loi va pouvoir être mise en œuvre. Et tout le problème, si vous voulez, on sait qu'on assiste à une fragilisation de tout notre édifice législatif parce qu'on vote beaucoup, beaucoup de lois et qu'on est dans l'incapacité ensuite de les appliquer. Il y a tout un tas d'initiatives, notamment parlementaires, pour suivre l'état d'application des textes et on se rend compte qu'on est très loin, très en retard sur cette application-là. Donc si vous votez une loi et que vous n'êtes pas en capacité matérielle de la faire appliquer, eh bien, vous fragilisez tout l'édifice législatif. Là, aujourd'hui, il y a deux options qui s'ouvrent, à savoir soit la vérification par un tiers de confiance de votre pièce d'identité, mais là ça pose une infinité de questions. Oui. Qui est ce tiers de confiance? Comment est-ce que vous faites en sorte que vos données, elles soient pas aspirées par des entités peu scrupuleuses qui iront les vendre allègrement à tel acteur ou à tel autre? Et puis il y a l'autre possibilité, c'est la reconnaissance faciale via IA, mais là pardon, qu'est-ce qui vous garantit que vous distinguez un enfant de 13 ans d'un ado de 15 ans et un jour?
Qu'important, c'est le cadre. Effectivement, la faisabilité technique est très complexe, mais ce qui est important, c'est que ça donne une ligne, un cadre aux parents qui peuvent dire à leurs enfants « c'est interdit ».
Oui.
Et si ta copine là, et ben on va dire à ses parents non mais c'est interdit, c'est pas légal. Oui. Voilà, c'est tout. Et puis bien sûr qu'il y en a toujours 10 ou 15.
Bien sûr, mais ça va aussi défendre, parmi les familles. Peut-être
égalitaire.
Que certaines familles vont être,
les mesures les plus simples.
En Australie, ils l'ont fait. Les chiffres. En Australie, qui est le seul pays qui constitue un précédent.
Oui.
Bon, Meta a supprimé, d'après les nouveaux critères posés par le cadre légal, un peu plus de 500 000 comptes de jeunes.
Donc ils n'ont pas le DSA aussi, il faut dire.
Non, voilà. Alors il y a sûrement des arnaques, il y a sûrement des choses qui ne fonctionnent pas, mais enfin. je suis d'accord avec Gaspard, on ne peut pas dire que quand une chose devient légale et interdite, ça n'a pas d'effet. Ça en a un, évidemment.
Où va se déporter cette sociabilité de ces jeunes-là ? Moi, c'est ma crainte aussi, c'est qu'on aille sur des forums...
Blanche Loridon.
Des forums beaucoup plus obscurs, beaucoup moins contrôlés, ou je ne sais pas, l'IA, par exemple, est totalement absente. Là, on voit aussi monter des espèces de relations un peu addictives, étonnantes, de sociabilisation avec des intelligences artificielles. Ça, ça ne rentre pas dans le couloir. Donc, moi aussi, le risque de report vers d'autres univers numériques, peut-être encore moins contrôlé et plus problématique, et selon moi un vrai risque.
Peut-être des reports sur des bandes de copains qui discutent ensemble et
Magali Lafourcade, votre avis là-dessus? Et peut-être, je voudrais quand même préciser que les réseaux sociaux ont aussi apporté beaucoup, je pense, notamment contre des régimes autoritaires. Hein, les mobilisations souvent s'organisent là-dessus. On pourrait penser à MeToo, on pourrait penser à énormément de mobilisations sociales. Allez-y.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec
Mais c'est vrai que c'est pas pour les moins de 15
mais
ans.
Mais voilà, on sait que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour les enfants. Ils ne sont pas adaptés aux enfants. Sauf que je voudrais quand même souligner qu'ils sont déjà interdits aux moins de 13 ans. Oui. Et l'étude de e-enfance montre que en 2025, 67% des enfants de 8 à 10 ans étaient déjà présents sur un réseau social, contre 27% en 2021. Donc on voit la progression. Alors, Gaspard Koenig a raison sur le fait que quand il y a une loi, ça soutient les parents dans l'argumentaire, puisque la loi a une vertu expressive et que donc ça les aide dans cette discussion. Mais c'est quand même très hypocrite dans le sens où ça fait reporter le fardeau. Et je le vois bien à la maison. C'est pour ça que je n'ai pas de voix aujourd'hui. Je tiens à dire aux auditeurs, c'est à force de dire aux enfants, arrêtez avec vos téléphones portables. Et donc ça résout pas le problème. Ça traite juste un symptôme et ça risque même de l'entériner. Parce que en vrai, cette loi qui est très très une réponse très séduisante sur le papier, elle s'appuie quand même sur après des décrets qui vont devoir préciser qui sont les réseaux sociaux concernés. Et là, c'est absolument pas
simple. Le Conseil d'État et l'ARCOM, hein, vraisemblablement,
oui, mais
seront les acteurs qui concernent.
Il y aura un décret en Conseil d'État qui va devoir dire quelles sont les fonctionnalités à l'intérieur de certains réseaux sociaux comme YouTube qui seraient interdites ou pas. Donc ça risque d'être très compliqué. Et puis surtout, la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est qui ? C'est la Commission européenne. Et là, je voudrais, alors que pourtant je suis très très fan de l'Union européenne, mais là je voudrais quand même critiquer largement, puisque donc nous avons le DSA et le DMA, donc le Digital Market Act, et donc le DSA qui est la régulation européenne sur les services numériques, qui sont des outils formidables, qui ont été votés par la démocratie européenne, par le Parlement européen, contre tous ces lobbies qui ont été extrêmement intenses, qui sont entrés en vigueur avant l'arrivée de Trump au pouvoir dans son second mandat, qui prévoient des sanctions extrêmement lourdes en cas de manquement, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme, ce qui est colossal pour le DSA et 10% pour le DMA. Il y a eu pléthore d'enquêtes qui ont été ouvertes depuis l'entrée en vigueur, et pourtant il n'y en a que deux qui ont abouti, dont une qui a condamné X à 120 millions d'euros, donc c'est quand même pas énorme, pour l'histoire des coches bleues, de l'information sur les publicitaires, l'accès aux données. C'est très faible. Et donc où en sont les autres enquêtes ? C'est-à-dire que quand on a une législation qui est votée à un moment où ce sont les démocraties qui sont ciblées par ces plateformes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles font, je crois qu'il faut montrer que l'exécutif européen, c'est-à-dire la Commission européenne, applique les textes européens. Donc si déjà elle n'arrive pas à les appliquer à l'échelle de l'Union pour les manquements au DSA et au DMA, comment on va pouvoir être sûr qu'elle va se saisir de notre restriction d'accès dans notre loi pour pouvoir l'appliquer à la juste mesure des enjeux économiques? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la Commission européenne est saisie par une angoisse face aux mesures de rétorsion que pourrait faire peser Trump sur notre marché économique et n'arrive plus à se comporter en exécutif. Or, c'est ça qu'une démocratie doit faire, c'est-à-dire appliquer les textes qui ont été votés.
Juste un mot là-dessus, parce qu'il y a quand même une petite évolution. En fin de cette semaine, la Commission européenne a avancé dans son enquête contre X et a demandé à TikTok de changer son interface addictive en Europe, car elle pourrait, je cite, nuire au bien-être physique et mental des mineurs en l'occurrence. Et là, il y a une nouvelle initiative qui a été lancée contre TikTok et qui pourrait mener, si TikTok ne change pas son interface, à ces fameuses sanctions qui pourraient peser jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial annuel. Donc on voit, je partage évidemment ce que Magali Lafourcade a dit sur les retards ou la lenteur en tout cas de la réaction européenne, mais là il y a en tout cas une prise de conscience et une forme d'accélération tout de même, en tout cas sur TikTok.
Oui, alors, Chevalier. Je trouve ça amusant parce qu'il faut quand même admettre que cette histoire de réseaux sociaux et d'interdiction aux mineurs
nous confronte à un truc qu'on n'avait absolument pas prévu, qui est juste qu'on est mal à l'aise avec ce que la démocratie permet. Enfin, je veux dire, je trouve ça stupéfiant. Ben, j'ai le droit de terminer. Oui, je trouve ça stupéfiant.
Restons cordiaux, s'il vous plaît.
Réalité, bien sûr. Non, mais parce qu'en réalité, si on va au bout de la logique, ceux qui ont fait le mieux, c'est la Chine. La Chine, maintenant, c'est ultra réglementé. C'est-à-dire que si vous avez moins de 14 ans, vous avez le droit de passer 40 minutes par jour sur des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux permis par le gouvernement chinois. Donc, vous voyez, on est loin de TikTok, Facebook.
Il n'y a peut-être pas besoin d'un gouvernement comme aussi dictatorial que la Chine pour être peu sérieux
Mais je trouve qu'intellectuellement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que là, en fait, la Commission européenne va devoir créer une censure objective, parce qu'elle pense que ça nuit à des choses.
C'est pas une censure, elle demande de changer l'algorithme.
Oui, mais enfin, c'en est une quand même. C'est une forme de censure. Et si vous voulez, elle emprunte un chemin. Non, mais encore une fois, moi, ça ne me gêne pas, si vous voulez, en tant que personne. Mais je constate qu'intellectuellement, ça entre en contradiction avec ce qu'on pense être des citoyens capables d'interagir dans un monde de liberté et de libre circulation de la connaissance.
Moi, je suis très attaché.
Gaspard Koenig, et puis on va aller écouter le ministre de l'Éducation nationale.
Très attaché à cet argument libéral, mais en l'occurrence, je trouve qu'il est totalement déplacé s'agissant des mineurs. Moi, je suis tout à fait favorable à la légalisation des drogues pour les adultes, mais clairement, pour pouvoir avoir des adultes citoyens responsables, matures, autonomes, avec des cerveaux qui fonctionnent, il faut éduquer les enfants de manière à ce que, justement, ils puissent apprendre à faire usage de ce libre-arbitre. Et c'est bien le but de l'instruction depuis un bon siècle et demi, que d'essayer de rendre les enfants autonomes en les protégeant de toutes sortes de choses auxquelles ils auront accès plus tard. Enfin, personne ne discute le fait que l'héroïne n'est pas en vente libre devant les collèges au nom de la démocratie, de la liberté, la possibilité de pouvoir essayer plein de choses quand on est jeune. Les adultes ont une... Et plus... En fait, moins on assume nos responsabilités en tant qu'adultes, plus on se comporte nous-mêmes en enfant. Et d'un côté, on infantilise les adultes, parce que de l'autre côté, on adultise les enfants. Ben non, il y a une différence. Et on doit pouvoir se comporter on doit pouvoir assumer de donner des directions et des contraintes à nos enfants, parce que c'est comme ça qu'on en fera des citoyens libres. Il y a un neuropsychiatre qui disait, si vous voulez que vos enfants soient fascistes, éduquez-les en libéraux. Si vous voulez qu'ils soient libéraux, éduquez-les en fascistes. Et la Chine est assez intéressante de ce point de vue-là, puisque effectivement, ceux-là même qui répandent TikTok dans le monde entier, au nom de ce que le président Xi appelle l'opium intellectuel, et alors c'est intéressant de la part d'un marxiste de comprendre que maintenant c'est plus la religion, mais c'est l'addiction aux réseaux sociaux qui constitue l'opium du peuple, et au nom de ça, il a effectivement, la Chine a considérablement limité l'usage des mêmes réseaux qu'il répandent dans le reste du monde.
Vous dire que ce sera à 100% respecté? Bien sûr que non. Enfin, quelle interdiction est respectée à 100% par des jeunes de 15 ans? Mais changer de braquet et limiter l'exposition aux écrans, désapprendre à recevoir des notifications à sa poche qui font ting 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 toutes les 5 minutes, c'est ça l'enjeu en fait. Et ça suppose qu'à côté on serait possible d'éduquer aux médias, d'éduquer à l'information, d'éduquer aux écrans, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'interdire, mais si on éduque à côté et puis qu'on offre à nos jeunes des espaces de sociabilité, ils seront moins dépendants d'outils qui aujourd'hui les bombardent de contenu à la fois biaisés et extrêmement limité intellectuellement.
Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, le dimanche 1er février, c'était chez nos confrères de LCI. Et ma question pour vous quatre, et notamment vous, Magali Lafourcade, est-ce qu'on n'est pas en train de tout mélanger? Le rapport aux écrans, le rapport aux réseaux sociaux, le rapport aux jeux vidéo, le président en a parlé cette semaine. Et surtout, l'interdiction du portable au lycée. Je vois qu'il était chez Brut, Emmanuel Macron. Beaucoup d'étudiants, enfin jeunes lycéens, disaient qu'ils ne voulaient surtout pas être interdits de téléphone portable au lycée. Ça semble très difficile d'interdire cet outil dans les écoles, est-ce que c'est un problème d'autorité ?
Alors, je pense que c'est plutôt un problème de faisabilité, c'est-à-dire et aussi de cohérence politique même au-delà. C'est-à-dire qu'on a quand même eu l'Éducation nationale qui a fait un énorme virage. Je pense que tous les parents qui nous écoutent le savent. Entre lycée.net, Pronote, ENT, même en maternelle, ils sont en train de développer une plateforme pour échanger avec l'équipe enseignante. Donc le tout numérique fait que les enfants sont obligés de vérifier, parce que le cahier de texte, vous savez, cet outil que nous on avait tous. Qu'on décorait, qu'on aimait effectivement. Ben voilà, eux ils sont obligés de vérifier que il n'y a pas des nouveaux devoirs qui sont inscrits sur leur ENT, sur leur Pronote. Donc tout ça aujourd'hui de dire qu'il faut arrêter le portable. Bien sûr, moi je trouve effarant qu'on puisse consulter son téléphone en classe. Je trouve que le règlement intérieur dans les collèges utilise des formules qui sont compliquées, puisque à la fois c'est interdit dans l'enceinte et en même temps il faut qu'il soit dans le cartable. Donc on est en plein dans l'injonction paradoxale. Et puis pour le lycée, je crois que ça a mis énormément les équipes sous tension, parce que dans un lycée, vous avez des enfants de 15 ans, il y a des enfants de 14 ans, mais vous avez aussi des étudiants qui sont en classe préparatoire, vous avez des majeurs. Donc comment on fait pour faire respecter ça? Est-ce qu'on fait des zones sans portable? C'est extrêmement compliqué. Et donc les équipes se disent, on va nous demander de vérifier ça alors qu'on n'a déjà pas assez de moyens. Donc là, je crois qu'il y a un problème de cohérence et de faisabilité. Mais dans l'ensemble, je rejoins vraiment ce qu'a dit Blanche Léridon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une précipitation vers des annonces, alors que d'ailleurs ce ministre de l'Éducation nationale il parlait d'abord d'expérimentation, d'y aller pas par pas. Là, on a vraiment l'exécutif avec le discours d'Emmanuel Macron très fortement sur les réseaux sociaux, puis maintenant il va sur les jeux vidéo. On a cette proposition de loi portée par Laure Miller, et donc tout le monde a l'air de foncer dans une solution facile qui englobe tout et qui en fait ne pose pas la véritable question qui est celle du temps. Et c'est là où c'est intéressant éventuellement de tout confondre, c'est-à-dire que finalement, que reste-t-il? On sait que le temps de déplacement de nos enfants, c'est-à-dire de prendre son vélo pour aller faire une balade, est considérablement réduit. Les enfants sont devenus très sédentaires à l'intérieur des appartements ou des maisons. Leur socialisation a quand même été modifiée. Et je crois qu'il faut aussi envisager dans les temps de l'enfant, tout cet ensemble, parce qu'on les voit passer du smartphone aux jeux vidéo, éventuellement un peu à la télévision, que cet objet est devenu un petit peu obsolète, etc. Et je crois qu'il faut avoir une approche globale, et il y a des rapports passionnants qui ont été faits. Je voudrais citer celui piloté pour Paris 1 par Célia Zelinski, mineur et réseaux sociaux, et qui montre que si on avait un petit peu d'ambition, on pourrait faire des choses beaucoup plus dans la dentelle, de façon à accompagner chacun vers une autonomisation. Et c'est ce que disait Gaspard Koenig tout à l'heure, sur le fait qu'il faut aussi apprendre à devenir des adultes, et que qu'est-ce qui se passe après 15 ans d'un coup? Vous avez accès à tout, c'est l'héroïne en vente libre en fait. Donc voilà, j'exagère bien sûr, mais c'est un peu cette logique-là que je voulais rappeler.
Blanche Léridon.
Sur l'interdiction au lycée, qui est donc le deuxième article de la proposition de loi dont on discute depuis le début de l'émission.
Du téléphone portable, hein, pas oui, des réseaux sociaux. Pardon, tout est un peu mélangé, portable, mais voilà, c'est bien ça la proposition de loi.
L'interdiction du téléphone portable, de l'objet téléphone portable au lycée. Je trouve que c'est assez symptomatique de la façon dont les réformes de l'éducation nationale ont été menées depuis le second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'était pas le cas lors du premier quinquennat. Depuis ce second quinquennat, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu 7 ministres de l'éducation nationale différents, ce qui est beaucoup trop pour garantir une forme de continuité et puis surtout d'évaluation et de suivi des réformes qui étaient implémentées. On l'a vu sur le bac où tantôt les mathématiques sortaient du cursus général puis y revenaient. Il y a eu une infinité d'allers-retours et beaucoup de mesures très précipitées qui ont été prises par les ministres successifs qui voulaient marquer leur empreinte d'une manière ou d'une autre. Et là-dessus, on est encore face à ça. Magali Lafourcade l'a très justement dit. Au départ, Édouard Geffray, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, était plutôt, non pas hostile à la mesure, si je comprends bien, mais favorable à une expérimentation qui serait suivie d'évaluation et, dans un second temps, peut-être la généralisation dans un certain nombre de lycées. Favorable aussi, d'abord, dans un premier temps, à l'évaluation de tous les dispositifs qui ont été mis en place à la fois au collège, puisque le téléphone portable y est interdit depuis 2018, mais aussi d'autres dispositifs qui avaient été mis en place sur les pauses numériques ou des choses comme ça. Et là-dessus, on manque véritablement de recul sur un certain nombre de textes qui ont été implémentés. Et c'est vrai que le résultat, c'est qu'on a des personnels de direction, des personnels éducatifs dans les établissements qui se retrouvent face à des injonctions parfois contradictoires, répétées, de plus en plus régulières et qui ont du mal à les implémenter et qui se retrouvent un petit peu en bout de course et à devoir régler tout seul des problèmes qui dépassent très largement le cadre scolaire et celui du réseau social en est un.
Et quelques exemples, j'avais l'impression d'être de retour au moment du Covid. Hein. L'amendement qui prévoit que le téléphone portable est interdit pendant les cours dans les couloirs mais autorisé dans une zone définie de la cour. Le ministre qui parle d'un principe d'interdiction mais de dérogation fixée dans le règlement intérieur. Et d'autres qui parlent de la réécriture du règlement intérieur des lycées qui préciserait les lieux et les conditions d'utilisation. Gaspard Koenig.
Les mesures acceptables, les mesures compréhensibles, et les mesures justes et égalitaires sont des mesures simples. L'interdiction du portable au collège est un truc hyper simple, sur lequel, du coup, les élèves ne protestent pas.
C'est appliqué, ça?
C'est très appliqué. Enfin, en tout cas, dans mon expérience avec mes enfants, c'est parfaitement appliqué. Il y en a de temps en temps qui vont dans les toilettes, qu'on voit un texto, mais c'est pas très grave. Parce que c'est simple, donc c'est pareil pour tout le monde. Et une fois que c'est simple, bah, en fait, on intègre la norme très vite. Et puis, ça devient, très rapidement une habitude. Et puis, on oublie complètement que ça pourrait être autrement. Si vous êtes constamment en train de négocier, c'est pareil sur le contrôle parental. Si vous êtes constamment en train de négocier, oui, mais dans la cour, oui, mais telle heure, oui, mais tel truc, et qu'il y a plein d'exceptions, bah, vous rentrez dans un univers d'abord bureaucratique, insupportable, inégalitaire, parce que ceux qui connaissent, vont mieux s'en sortir. J'ajouterais que qui est contre aujourd'hui, politiquement, cette loi, ces lois d'interdiction des réseaux sociaux ou d'interdiction des portables au lycée? C'est LFI. Au nom de quoi? Au nom d'une conception un peu 68arne de la liberté. Et donc, bah là, finalement, on contraint les jeunes. C'est pas bien, il faut interdire d'interdire. Et je pense que c'est assez intéressant, venant d'un parti qui, par ailleurs, pour moi, n'a pas sur le plan institutionnel, économique et politique une conception très rigoureuse de la liberté pour les adultes, que de dire, bah, en fait, on va laisser les enfants eux-mêmes. Et puis par ailleurs, les adultes, après, eux, on va bien les contrôler. Je pense que les deux, en fait, sont cohérents.
Oui, alors il y a quand même un sujet. Et moi, alors peut-être que je rêve une liberté qui n'a pas existé et que je suis un peu trop détendu par rapport à ces sujets-là. Mais moi, je ne comprends pas qu'on ne s'interroge pas sur l'évolution de la transmission de la connaissance. Je veux dire, ces questions-là, évidemment, interdire le portable à l'école, moi je suis d'accord avec vous, je trouve que c'est une mesure simple et il faut le faire. Mais la vérité, c'est que, et vous l'avez dit, les cerveaux de ces jeunes sont structurés par leur époque, c'est comme ça. Je veux dire, il n'empêche que c'est le cas. Moi je trouve ça fou qu'on n'ait pas repensé le métier de professeur. Que personne ne se soit interrogé sur cette question. L'émergence de l'IA, la surprésence des téléphones portables, pas seulement à l'école, mais dans la vie de tous les jours des enfants, évidemment que ça va modifier la fonction de professeur et la façon dont on transmet la connaissance. C'est tellement évident d'un point de vue pratique, c'est le réel, ça, vous voyez, c'est pas des idées en chambre. Ça, c'est le réel. Et personne n'ose poser cette question parce qu'on préfère se dire, surtout ne changeons rien et essayons d'interdire tout ce qu'on peut. Interdire, c'est utile, mais réfléchir à comment la société évolue, c'est aussi important.
Je travaille au conseil d'administration de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et ils ont un programme qui permet de former les profs à la biodiversité pour aller faire cours dehors. Bon, ben ça, c'est une manière de connecter à la nature en étant déconnecté des réseaux, qui est très puissante et qui, effectivement, restructure l'esprit de nos jeunes d'une manière qui sera plus saine, plus intéressante et plus valable, d'ailleurs, pour le futur de notre vie sur Terre.
Ajouter une chose.
D'un mot, et puis ensuite...
C'est simple à comprendre.
Partir aux États-Unis.
Un monde où on peut avoir l'histoire de Rome en deux clics sur un téléphone portable, aux toilettes, dans le métro, à la sortie du cours du cinéma, et un monde où il fallait aller dans une bibliothèque pour le trouver, ou un monde où il fallait dans une bibliothèque de papyrus, de codex pour le trouver, juste, ça n'est pas la même chose. Et ça, je pense que c'est simple à comprendre.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Nous sommes toujours en compagnie de la magistrate Magali Lafourcade, du philosophe Gaspard Koenig, de Blanche Le Ridon, directrice des études France à l'Institut Montaigne, et d'Arthur Chevalier, qu'on vient d'entendre, auteur, éditeur et chroniqueur. On vient de parler de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui pourrait entrer en application en France dès la rentrée prochaine, et nous nous intéressons désormais aux États-Unis.
On ne veut pas de roi. On ne veut pas de gens qui tuent d'autres gens dans la rue. On est en Italie, mais c'est pareil en Amérique. On soutient nos amis de Minneapolis.
Je suis américaine et italienne. Je ne suis pas venue en Italie pour voir l'ICE ici. Ce n'est pas pour la sécurité des Jeux. On a déjà une agence de sécurité, les services secrets. S'ils sont assez bons pour protéger le président, ils peuvent protéger nos athlètes. On n'a pas besoin de tueurs en Italie ou à Milan.
Des centaines de manifestants en Italie la semaine dernière à Milan contre la présence de la police américaine ICE pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, reportage signé Bing Sport. Et les mêmes questions soulevées des deux côtés de l'Atlantique. Le maire de Milan s'oppose à la présence de ces agents controversés, pourtant prévus et organisés de longue date, en vertu d'un partenariat sécuritaire signé entre les États-Unis et l'Italie en 2009 et des échanges classiques pour ce type d'événements internationaux. Sauf que la police de l'immigration et des douanes, ICE pour Immigration and Customs Enforcement, créée en 2003 sous George Bush, après les attentats du 11 septembre, dans le cadre d'une réorganisation sécuritaire, n'est plus la même sous le deuxième mandat de Donald Trump. Un budget triplé, des effectifs doublés, des formations de plus en plus courtes et des interventions musclées au point de ne plus respecter le droit, selon le juge conservateur de la Cour du Minnesota. L'État du Nord, à la frontière avec le Canada, où se situe la ville de Minneapolis, déjà frappée par la mort de George Floyd en 2020, aujourd'hui doublement meurtrie après celle de René Goode le 7 janvier et Alex Preti le 24, deux opposants à la police de l'immigration nouvelle version, morts sous les balles de ses agents fédéraux. Des manifestations et un recul partiel de Donald Trump sous la pression. On compte également un Mexicain mort sous les coups de cette police. 3800 mineurs, dont 20 nourrissons, sont détenus en 2025. La méthode choque la majorité des citoyens américains et des voix s'élèvent parmi les personnalités, acteurs, chanteurs, sportifs qui dénoncent une police illégale, des valeurs américaines foulées aux pieds et même des comparaisons avec la Gestapo. Barack Obama, l'ancien président démocrate, est sorti de sa réserve le 29 janvier pour dénoncer le viol des valeurs fondamentales américaines, lui qui détenait le record d'expulsion administrative en un an, plus de 432 000. En 2013, on en compte 605 000 en 2025. Magali Lafourcade, est-ce l'échec de la politique migratoire de Donald Trump, premier mandat, notamment les quelques dizaines de kilomètres de murs construits à la frontière mexicaine, qui conduit le président américain à utiliser cette méthode?
Alors c'est très intéressant cette question, parce que ça pose la question des continuités, alors que tout le monde en parle d'un point de vue de rupture. Alors on voit bien que la question migratoire est devenue une obsession pour Donald Trump. De toute façon, elle a une dimension existentielle pour l'extrême droite américaine, donc on n'est pas surpris, et Trump a pris dans les 100 premiers jours de son mandat, donc Trump 2, 140 décrets sur l'immigration pour durcir notamment la question des flux d'entrée. Alors les flux d'entrée, on a le résultat donc d'un rapport de la Brookings Institution qui dit que en 2025, le solde net est entre moins 10 000 et moins 300 000 personnes. Donc en fait, sa politique à la frontière a totalement réussi, puisqu'il a réussi à décourager, et donc on est en plein dans le repli américain, et donc dans un choc en fait par rapport à la tradition américaine. Et un jour ou l'autre, il va avoir des gros problèmes sur son marché de l'emploi d'ailleurs. Mais donc ce tarissement des flux, il se prolonge aujourd'hui avec l'idée d'aller chercher avec une police fédérale partout, en tout lieu, des migrants qui peuvent être là depuis très longtemps. Et là où on peut voir une continuité, c'est qu'en fait cette gestion de l'immigration via en fait le spectre de la lutte antiterroriste, où il n'y a plus de lieux sanctuaires, ni les abords des écoles, ni les abords des usines, les abords des églises, montre qu'il y a une réorientation des moyens vers la militarisation de la politique intérieure. Et le fait qu'elle ait été créée, cette police, en 2003, après le 11 septembre, montre bien qu'il y a cette logique-là qui est à l'œuvre. Sauf que lui, il en a fait quelque chose d'extrêmement wagnerisé, si on peut dire, puisqu'on a vu le recrutement. Il va chercher en particulier des gens qui sont à l'aise avec les armes, à l'aise avec la violence, qui sont dans des grandes camp d'entraînement, de combat, etc. Il y a une impunité qui est organisée. On ne fait pas d'enquête, on blanchit tout de suite les agents, on leur rappelle qu'ils ont une immunité, et on a déstructurer tous les organes de supervision qui auraient pu vérifier que les droits fondamentaux étaient respectés. Puis c'est aussi à la Trump, c'est-à-dire que c'est un business juteux. La plupart la chaîne logistique d'expulsion, ce qu'ils appellent la déportation, mais ce mot est un peu compliqué en français, est très très organisée, optimisée, avec beaucoup de sous-traitants privés. Et ce sont des soutiens de la campagne de Donald Trump. Donc là, on ne sera pas tellement étonné. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis déjà une dizaine d'années, c'est police travaillent avec Palantir pour pouvoir utiliser la technologie de la surveillance. Et on voit passer donc de la logique de « on va chercher des migrants qui sont des criminels » à la logique des migrants qui sont des sans-papiers, qui peuvent être très utiles à l'économie, payer des impôts, etc. Et puis maintenant, on étend aux personnes de couleur avec cette logique discriminatoire du contrôle aux faciès. Et puis, on va plus loin avec les opposants politiques. Et là, c'est la continuité de la logique de Trump, de tous ceux qui s'opposent à lui sont forcément des terroristes de l'intérieur, des ennemis de l'intérieur. Et ça, je crois que c'est extrêmement inquiétant. Donc effectivement, il faut voir ces deux aspects-là. Le tarissement des flux à l'entrée et maintenant cette modification qui complique énormément les relations dans le pays et qui devrait tous nous alarmer, puisque le droit n'est absolument plus respecté.
Blanche Loriton, j'ajoute simplement deux chiffres pour compléter ce que vous venez de dire, Magali Lafourcade. Parmi les 68 000 personnes détenues par ICE mi-décembre, 75% d'entre elles n'avaient pas de casier judiciaire. Et on compte près de 2 millions de départs volontaires sous la pression d'ICE des États-Unis.
Mais tout ça a entraîné une bascule dans l'opinion publique américaine qui marque, selon moi, vraiment le premier véritable tournant dans cette première année de Trump, enfin première année qu'il a dépassée, mais dans le démarrage de ce second mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis, y compris dans les rangs républicains. On a quand même une sanction assez massive de la façon dont les agents de ICE se sont comportés, et vous avez cité Astrid de Villene en introduction. Moi, je me souviens que depuis un an, on se disait tous, quand même, qu'une partie de l'intelligentsia américaine, des artistes, des chanteurs, était extrêmement timorée, avec une espèce de silence un petit peu coupable sur ce qui se passait dans leur pays. Et là, énormément de voix sont sorties de leur réserve, de leur prudence, pour alerter et s'alarmer contre ce qui se passait à Minneapolis. Et ça donne aussi aux démocrates une capacité de retrouver un petit peu de cette vigueur qu'ils avaient perdue. Il y a deux voix en particulier qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours. Je pense bien sûr à la voix de Tim Walz. Souvenez-vous, il était le colistier de Kamala Harris pendant la campagne présidentielle de 2024. Il est le gouverneur démocrate du Minnesota. Il s'est beaucoup exprimé ces dernières semaines. Et puis aussi, une figure qu'on connaissait beaucoup moins en France, Jacob Frey, qui est le maire de Minneapolis, qui a fait une tribune extrêmement forte dans le New York Times, intitulée « Je suis le maire de Minneapolis et Trump vous ment ». Et parce que qu'est-ce que ça met aussi derrière ? C'est aussi ICE, une espèce de bataille des récits, et ça rejoint un petit peu le sujet précédent sur l'utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle et de la capacité qu'on a à vouloir faire dire aux images autre chose que la réalité qu'elles sont supposées véhiculer. Et on a aussi là un espèce de, oui, de combat des récits qui se joue aux États-Unis sur l'action de ces officiers fédéraux. Et donc on voit là aussi, avec une instrumentalisation des images par un camp comme l'autre. Alors il n'y a pas eu vraiment de mea culpa de la part de Donald Trump sur ce qui s'est passé, mais quand même recul, un retour en arrière, parce que je pense que lui-même s'est rendu compte que pour les raisons qu'a cité Magali Lafourcade, à savoir ses objectifs absolument colossaux de déportation, je crois que c'est un objectif de 12 millions de déportations de migrants aux États-Unis, et ben on a eu un recrutement à tour de bras extrêmement rapide des temps
en fait.
Voilà, des temps de formation nécessaires de tous ces agents qui étaient extrêmement réduits. Donc on les a moins formés, on les a mis directement sur le terrain. Et évidemment, ça a abouti aux atrocités qu'on a pu constater ces dernières semaines. Donc attention quand même, c'est vrai que là, il y a les mid-termes qui vont arriver. Et je pense que tout ça ne sera pas neutre sur l'avenir de Donald Trump, enfin du camp républicain, dont une partie d'ailleurs commence à se dissocier, à prendre ses distances par rapport à ce qui a été fait.
Alors, Chevalier.
Je suis moyennement d'accord. La première, il est évident aux États-Unis, et maintenant c'est documenté, je pense notamment au livre d'Arnaud Miranda, exceptionnel, hein, Les Lumières sombres, dont tout le monde parle
chez Gallimard.
Chez Gallimard, dans la nouvelle collection de géopolitique, qui explique bien qu'il y a un changement de régime politique qui est à l'œuvre aux États-Unis, ces fameux midterms. On verra si elles sont organisées. Donald Trump a commencé à vouloir en modifier les critères d'organisation, en voulant placer l'autorité de l'organisation des élections au niveau fédéral, ce qui n'est pas le cas normalement. Donc on voit bien que l'organisation des midterms, c'est pas gagné du tout. Et d'ailleurs, je travaille pour une autre émission dans la semaine. Il y a 6 mois, quand je disais les mid-termes, on verra bien, tout le monde explosait de rire en plateau. On voit bien qu'en fait, tout ce qui était inimaginable avec Donald Trump est en train de devenir tout à fait concevable.
Elles sont prévues en novembre 2026.
Exactement.
Et c'est vrai que le président de la République, je complète si vous le voulez bien, Arthur
Chevalier,
a déclaré, enfin le président américain Donald Trump, on ne devrait même pas avoir besoin d'élections, ce qui a été défendu comme de l'humour par la Maison Blanche,
oui,
mais qui a un petit peu effrayé.
Et il a déjà dit qu'elle pourrait ne pas avoir lieu. Il l'a dit textuellement. Donc voilà. La deuxième chose, et là peut-être que du coup j'aurai un point de vue plus nuancé, c'est que j'ai un peu l'impression qu'on est en train de découvrir une Amérique. Enfin, on pense qu'il y a une Amérique qui était totalement différente avant celle de Donald Trump. Pardon, mais je ne sais pas exactement à quelle illusion on a été nourri pendant 30 ans dans ce pays, mais je veux dire, les États-Unis d'Amérique, pour un pays occidental, je veux dire, et prétendument civilisé, c'est quand même un pays qui a organisé le premier génocide de pauvres en Occident. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est le sujet du très bon film de Michael Cimino qui s'appelle Les Portes du Paradis. C'est-à-dire, c'est des choses. Il y a une violence.
De quoi vous parlez quand vous dites le génocide des pauvres ?
Eh bien, il y a eu à un moment donné des propriétaires américains, c'est un film de Cimino qui en parle, des propriétaires américains qui ont décidé de se débarrasser des pauvres dans leur région, d'accord ? Donc, alors le mot génocide, génocide évidemment est un peu exagéré, mais je veux dire qu'on essaie de se débarrasser des pauvres qui les ont assassinés, qui les ont déplacés pour le coup. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a une violence vis-à-vis des populations aux États-Unis qui n'existe pas spécialement ailleurs. Deuxième point, quand même un pays qui dans les années 60 pratiquait la ségrégation raciale alors que c'est censé être un pays encore une fois occidentalisé, qui a été nourri par censément les valeurs des Lumières au XVIIIe siècle. Enfin, ils ont pratiqué des choses que l'Europe avait quand même arrêté de pratiquer un siècle ou deux siècles auparavant. Donc, il y a quelque chose dans ce pays, une violence naturelle, j'allais dire anthropologique et sociétale, qui franchement n'avait pas disparu. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que Donald Trump est en train de changer la donne, parce que, un, il est en train d'essayer de changer ce régime politique, ça c'est pas neutre, ça on est tout à fait d'accord là-dessus, et deux, il fait disparaître les transitions. Au sens théorique du terme. C'est-à-dire que toutes les transitions disparaissent. Et les transitions, c'est la garantie de la civilité dans un état de droit. C'est-à-dire que, d'une décision politique au fait, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'association. Il fait disparaître les transitions. Et le point commun de tous les régimes autoritaires, j'ai pas envie de parler de fascisme pour Trump parce que je pense qu'on ne peut pas employer des mots comme
c'est
ça.
C'est un autre débat qu'on pourrait avoir.
Mais dans
ici
les régimes
débat,
autoritaires,
mais...
la première marque, c'est la disparition des transitions. Et quand je dis régime autoritaire, d'ailleurs, on peut parler de Louis XIV qui décide de créer des hospices directement à sa main, d'aggraver les peines de prison directement depuis son bureau. Vous voyez, c'est pas seulement... Les régimes autoritaires, c'est pas de la théorie politique, c'est quelque chose qui existe de tout temps et ça se traduit par la disparition des transitions.
Je vous donne la parole, Gaspard Koenig. J'ajoute qu'avec Anne Carbazin, en préparant cette émission, nous sommes retombés sur des articles français, notamment dans le journal Le Monde, qui critiquaient vertement la politique migratoire de Barack Obama, en parlant de familles séparées de leurs parents, d'enfants séparés de leurs parents, de jamais le nombre de personnes tentant de rentrer aux États-Unis après en avoir été éloignées n'avait été aussi élevé. Évidemment, sans les morts qu'on connaît ici à Minneapolis, dont je parlais en introduction. Gaspard Koenig.
Juste un petit point de méthode. Je m'interroge un peu sur la place que prend la politique intérieure américaine dans le débat français et dans les nouvelles qu'on peut lire. Maintenant, on connaît absolument, on a l'impression de tout connaître, de connaître comment marche le système fédéral, quel est le nom du ministre de la Justice, qui a déclaré dernièrement le ministre de l'Économie, alors qu'on ne connaît souvent même pas le nom de notre propre maire ou de notre propre député. Et c'est un peu un réflexe de pays colonisés qui commente les affaires de la métropole.
Ou qui craint ce qui pourrait arriver chez nous. Souvent, on dit que les États-Unis ont 10 ans d'avance dans le...
Bien sûr que c'est important,
langage courant.
C'est un grand pays, etc. Mais par rapport, par exemple, à notre connaissance des affaires intérieures de la Chine, je trouve que le chiasme est quand même un peu frappant, et je me demande d'où vient cette... Alors, bien sûr qu'il se passe des choses très graves aux États-Unis qu'il faut regarder, mais enfin, ça nous colonise un peu, je trouve, trop l'esprit. Bon, alors, cela étant dit, je voudrais rebondir sur le terme qu'a utilisé Arthur quand il parle d'un pays prétendument civilisé. Et je pense que cette histoire de civilisation est en effet un peu au cœur du débat, notamment du débat entre les États-Unis et l'Europe. Puisque les États-Unis nous reprochent, de manière très très explicite, un effacement civilisationnel. Nous n'arriverions pas à préserver la civilisation européenne, assez explicitement blanche, chrétienne, et nous serions en phase de déclin avancé, alors que eux, finalement, porteraient le flambeau des lumières sombres, du Dark Enlightenment, qui, revenant sur un certain nombre des grands principes de l'état de droit, permettrait de conserver comme ça une société plus homogène, plus forte, assumant certaines valeurs d'autorité, etc. Et je pense que c'est aujourd'hui, il faut leur retourner l'argument. C'est les États-Unis qui sont en grand danger d'effacement civilisationnel. Et ça veut dire quoi, la civilisation? J'aimerais emprunter cette analyse à Freud, qui publie dans les années 30. Vous voyez, tout ça est assez plein d'échos. Malaise dans la civilisation. Il dit, la civilisation, c'est inconfortable. C'est de dépasser nos pulsions, de dépasser Eros et Thanatos. Notamment nos pulsions de meurtre, qu'on voit évidemment à l'œuvre, y compris dans la police paramilitaire ICE, qui est le sujet de ce débat. Dépasser nos pulsions, ça veut dire quoi en termes de politique publique? C'est justement un peu ce que décrivait Arthur, c'est l'état de droit. Et l'état de droit, c'est des choses assez pénible en fait, c'est-à-dire qu'il faut tolérer l'expression de l'autre, il faut passer par toutes sortes de procédures judiciaires, etc. Alors qu'on a juste envie de se venger du coupable, il faut accepter qu'il y ait une presse avec laquelle on n'est pas d'accord, une banque centrale indépendante qui fait pas forcément la politique monétaire dont on a envie, des universités qui publient des rapports scientifiques qui nous rendent inconfortables. Et aux États-Unis, tous ces fondements de l'état de droit, tous ces contre-pouvoirs sont en train d'être mis à l'épreuve les uns après les autres. À l'université, on n'a plus le droit d'enseigner le banquet de Platon parce que c'est trop woke. C'était quand même pas mal, c'est la dernière en date. Les criminels, on les amnistie. quand même, nous on parle, le président de la République française a toujours le droit de grâce, mais il l'a utilisé je crois la dernière fois en 2018, enfin c'est exceptionnel. Le droit de grâce est utilisé à une échelle industrielle pour des milliers de criminels. Le Congrès, on passe par-dessus parce qu'on gouverne par décret. La presse, on sélectionne les bons ou les mauvais journalistes dans les murs de la Maison-Blanche, voire on met la pression sur certains présentateurs pour qu'ils démissionnent. La Banque Centrale, on essaye de l'intimider et puis on va nommer un gouverneur plus à sa botte. Et l'économie elle-même est maintenant gérée de manière oligopolistique avec les tech bros, les copains de la tech qui sont invités à la Maison-Blanche et qui reforment en fait les grands oligopoles qu'on avait pu voir dans les années 20 sur le pétrole, la Standard Oil et tout ça. Et donc, on voit très bien que en termes de civilisation, nous pouvons être fiers, justement, de nos processus, de la violence qu'on se fait à nous-mêmes pour justement ne pas laisser libre cours à nos instincts de vengeance ou d'autorité, et que la civilisation, c'est nous, aujourd'hui. Et que nous avons, de ce point de vue-là, dans un monde qui devient autoritaire, quelque chose que nous pouvons mettre en valeur et qui sera probablement, qui pourrait rester une lumière pour l'ensemble de la planète, qui dit « Regardez, en Europe, ils résistent à cette tendance terrible, à cet effacement civilisationnel. Alors, jusqu'à quand allons-nous y résister ?» C'est un point d'interrogation qui, d'ailleurs, va être particulièrement saillant l'année prochaine dans des élections présidentielles. Mais enfin, pour le moment, au lieu de constamment battre notre coule en expliquant qu'il faut rattraper les États-Unis, qu'on n'est pas assez bon dans les investissements en IA, que regardez, eux, ils savent attirer les bons investissements, il faut assumer intellectuellement notre modèle.
Blanche Le Ridon.
Mais dans ce cas, Gaspard Koenig, je vois une vertu à ce que vous déploriez au tout début de votre intervention, à savoir que l'importation de cette actualité américaine en France, précisément, oui, elle nous permet d'intégrer la chance qu'on a. Il y a quand même eu, au tout début du second mandat de Donald Trump, beaucoup d'enthousiasme chez certaines personnalités politiques françaises, mais pas que françaises, européennes aussi. Je crois aujourd'hui que ce qui se passe aux États-Unis et précisément la façon dont on arrive à le documenter en France peut dissuader beaucoup de nos concitoyens de s'aventurer dans une entreprise politique qui pourrait de près ou de loin ressembler au trumpisme ou s'en revendiquer ou être ne serait-ce que soutenu par elle. Et donc j'y vois là finalement une vertu à ce qu'on parle autant de ce qui s'y passe pour comprendre que tout système politique qui s'en rapprocherait pourrait être effectivement une menace pour la civilisation et notre civilisation européenne, française, et ce qui reste de plus précieux dans le fonctionnement de nos démocraties, parce que c'est bien ça qui est en cause aujourd'hui.
Magali Lafourcade.
En fait, je m'interroge sur justement les réactions américaines, parce que j'espère que ça va être aussi l'objectif de Trump qui va être critiqué, pas seulement les méthodes. Or, aujourd'hui, il y a quand même, Blanche Ridon le rappelait, parmi les républicains, certains commencent à vraiment contester les méthodes.
Tous les sondages sont en majorité contre les méthodes d'ICE, voilà, y compris au sein du camp républicain.
Mais il faudrait aller plus loin, parce qu'en fait, ce qu'on va découvrir assez rapidement, et ça on le sait, parce que la fin ne justifie jamais tous les moyens, et ça c'est notre histoire humaine qui nous l'a montré, c'est que quand vous renoncez à l'état de droit, vous renoncez aussi à la prospérité, vous renoncez à énormément de choses. Et donc ça va être peut-être le contre-modèle attendu pour tous ceux qui sont tentés par l'autoritarisme. Mais j'entendais quand même certains responsables politiques qui disaient que finalement les méthodes de ICE, s'il y avait des personnes, des citoyens américains qui avaient été tués, c'était des accidents. Et là aussi, je crois que c'est très important, parce qu'on a quand même eu des propositions dans notre débat public français de mettre les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, de parler de la rétention administrative. Rétention administrative, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un casier judiciaire. C'est une situation administrative liée à vos documents, c'est-à-dire ce que vous avez comme document pour être en séjour sur un territoire. Et donc cette idée de détenir les gens dans des conditions qui ressemblent à des lieux carcéraux et qui sont déplorable, on est dans cette dynamique-là. Donc on a quand même un courant politique qui va dans cette dynamique. Il ne faudrait pas qu'on se serve de ce modèle.
Je ne pense pas qu'on soit dans cette dynamique-là pour une raison simple. Ce que j'ai dit, ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas seulement une droitisation
de la politique du président des États-Unis. C'est un changement de régime, c'est documenté. Dire que simplement, on veut transformer un État, même pas de droit d'ailleurs, je rentrerai même pas dans ce niveau de détail. On veut créer, c'est écrit, hein, on veut créer un État qui soit une entreprise avec des citoyens qui deviennent des clients et qui ont deux exigences, la propriété et la sécurité. Au nom de la propriété et de la sécurité, on peut faire tout et n'importe quoi. En gros, c'est ça le principe et le projet. C'est l'entourage de J.D. Vance. Donc le projet est simple. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on a un peu oublié une chose, c'est que le tribunal de l'histoire n'existe pas. Je veux dire par là que vis-à-vis de la postérité, on ne rejuge pas les gens une deuxième fois. Ceux qui gagnent face à l'histoire, c'est ceux qui gagnent dans les faits, pour de vrai, si vous voulez. C'est-à-dire que Donald Trump, s'il procède à son changement de régime, mais personne ne le jugera. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Ça peut durer pendant 100 ans, un changement de régime aux États-Unis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement une posture morale vis-à-vis de ça et de se dire on le jugera durement dans 5 ans quand ce sera fini, les républicains le paieront cher. Juste, si Donald Trump procède à son changement de régime, on va se taper des États-Unis d'Amérique totalement autoritaire, ça va avoir un impact chez nous et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Il n'y aura pas de jugement. Donc c'est pour ça que je trouve que l'Europe doit vraiment se réveiller de ce point de vue-là, parce que il faut agir. On ne pourra pas juger ça a posteriori, vous voyez ? C'est pas sûr que les méchants soient punis.
Mais c'est-à-dire agir ?
C'est-à-dire que simplement, il faut le combattre pied à pied. C'est un conflit réel qui nous oppose aux États-Unis désormais, je veux dire. Il ne faut pas avoir peur.
Pour le moment, toujours nos alliés.
Bien sûr que oui, ils sont toujours nos alliés. C'est que sur, moi je trouve que le président
plus dans
Macron,
la perception des Français, hein,
voilà,
pour une grande majorité d'avoir 80%. Davantage que la Chine considère que les États-Unis Trump ne sont plus une alliée.
On continuera à parler de ce sujet-là. On va passer tout de suite à vos coups de cœur puisqu'il est presque midi sur France Culture. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces deux discussions. Magali Lafourcade, magistrate, présidente de l'Institut français des droits et libertés. Votre dernier livre, La justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit, est disponible aux éditions des Petits Matins. Et je cite votre dernier, avant-dernier, Démasculiniser la justice, lauréat du prix littéraire Parité Assurance.
Alors moi, ma recommandation, mon coup de cœur, c'est un rapport qui a pas l'air peut-être comme ça d'être une lecture du dimanche, mais si, je vous assure. Donc c'est le rapport.
Vous n'êtes pas la première dans cette émission à nous proposer des rapports en coup de cœur. Ne vous excusez pas.
Un rapport qui s'appelle Avif, qui est produit par deux hauts magistrats, Gwenola Jolicoz et Éric Corbeau, et qui a été publié en novembre 2025 sur comment, avec des propositions extrêmement concrètes et faisables. Alors là, on est dans la faisabilité la plus totale. Arriver à lutter efficacement contre les violences intrafamiliales qui concernent bien sûr les violences faites aux femmes, les violences faites aux hommes, mais aussi les violences faites aux enfants. Et ça, c'est extrêmement important.
Arthur Chevalier, auteur, éditeur, chroniqueur, l'histoire à l'épreuve des émotions au CERF.
Mon coup de cœur, c'est un sondage qui est apparu cette semaine. Produit à la fois par l'IFOP et l'Observatoire Histoire et Vie Publique sur le rapport des Français à la collaboration. Il n'y avait pas eu de sondage sérieusement fait depuis 93 et 94, donc ça commence à faire... voilà. Quelle est l'opinion des Français vis-à-vis de Pétain, de Vichy et de ce qu'a fait la France ? Eh bien, j'ai une nouvelle. 54% des Français jugent que Pétain a trahi la France. En 93, ils étaient 38. Donc, si je puis dire, même s'il y a un assaut depuis les années 2010 sur la lecture qu'on fait de la collaboration et de la responsabilité de la France, les faits sont là. Les Français jugent de plus en plus durement la France de la collaboration.
Blanche Le Ridon, directrice des études France à l'Institut Montaigne.
Alors moi, ma recommandation, c'est une façon de poursuivre un petit peu notre seconde discussion d'émission. Vous savez que ce soir, aux États-Unis, il y a l'événement de l'année, à savoir le Super Bowl. Et je dois avouer, c'est aussi sous forme d'aveu que je fais cette recommandation, qu'avant, il y a une dizaine de jours, je connaissais très très mal le phénomène dont tout le monde parle, à savoir Bad Bunny. Et j'ai découvert, grâce à France Culture et un podcast absolument formidable, Astrid de Villene, de votre collègue Zoé Sfez, en deux épisodes de 60 minutes, la série musicale consacrée à Bad Bunny. Mais c'est pas uniquement Bad Bunny, c'est aussi sur toute la culture portoricaine et sur cet état si particulier qu'est Porto Rico, que je connaissais fort mal, je dois le reconnaître. Son statut d'état libre associé aux États-Unis, sa culture, ses revendications depuis quelques années, c'est passionnant. Non, c'est deux épisodes de 60 minutes, c'est réjouissant. Écoutez-le.
Eh bien moi, vous savez, dans la même veine, mon coup de cœur, c'est un podcast, mais américain. Donc c'est en anglais, il faut s'accrocher. This American Life, vous le connaissez sans doute. Il est recommandé par la productrice des Pieds sur Terre, ici sur France Culture, Sonia Kronlund, qui nous a beaucoup aidé à préparer cette émission. Ça s'appelle What is your emergency? Quelle est votre urgence? Quand des habitants des États-Unis font appel au 911, hein, le numéro de la police classique, pour se plaindre des agents de ICE, c'est passionnant. Et puis c'est à vous, Gaspard Koenig, philosophe, écrivain. Votre dernier livre s'appelle... À quoi il est aux éditions de l'Observatoire, comme le précédent, Humus.
Je recommande le livre qui vient tout juste de sortir, le Libelle de Marc-André Seulas, qui est un biologiste qu'il faut absolument lire parce qu'il fait une magnifique pédagogie de l'état de la science évolutionniste dans tous ses livres. Et c'est un livre qui s'appelle De la biodiversité comme un humanisme, qui nous rappelle que, un, l'effondrement de la biodiversité est le plus grave problème de l'humanité aujourd'hui, du monde, mais que deux, c'est un problème justement pour nous les humains, parce que dans 5 ou 10 millions d'années, la nature va s'en remettre, et que c'est une question humaniste, c'est une question de survie et de pérennité de nos conditions de vie sur Terre que de s'occuper enfin de ce
merci,
problème.
Merci Gaspard Koenig, merci à vous de nous avoir suivis comme tous les dimanches. On se retrouve la semaine prochaine en direct de 11h à midi pour un nouvel épisode de L'Esprit Public, à réécouter bien sûr sur le site et l'application Radio France. Bel après-midi à l'écoute de France Culture.